18h14 sur France Culture, l'actualité des industries culturelles et du numérique pour commencer cette émission, première séquence, premier segment de Soft Power avec nos chroniqueurs et nos invités. Trois batailles en cours dans l'actualité ce soir et on commence par la bataille cette semaine entre l'émission de télévision quotidienne de Yann Barthès sur TMC qui appartient au groupe TF1, émission jugée trop politiquement correcte par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. On pourrait dire qu'il s'agit d'un épiphénomène, d'une bataille presque dans un verre d'eau, mais il est révélateur, Zoé Sfès, d'une véritable bataille culturelle.
Oui, alors on va d'abord rappeler les faits, parce que effectivement, avant de commenter tout cela, c'est assez intéressant de voir les erreurs qu'ont fait les camps, en tout cas celles qu'ils s'attribuent. Donc tout commence quand mardi, Valeurs Actuelles dévoile sa couverture du prochain numéro qu'elle publie, avec une photo d'Yann Barthès, tout sourire, sous-titrée « La tyrannie des bien-pensants, enquête sur quotidien, la machine infernale de Yann Barthès, propagande, humiliation, fake news, comment les têtes à claque du politiquement correct font loi ». Long sous-titre, hein. Intéressant. Et mercredi 20 novembre, eh bien, Yann Barthès réplique d'une certaine manière sur son compte Instagram en écrivant « Gardez vos 5,50 €, donc 5,50 €, c'est le prix de Valeurs Actuelles en kiosque. Demain, n'achetez pas le journal d'extrême droite Valeurs Actuelles. Lisez gratos le dossier bidon qu'il nous consacre dès aujourd'hui. Et vive les bien-pensants. Bisous à tous. » Et en dessous de cette story, il y a un lien, oui, transfert, vers, en fait, le PDF de cette enquête. Donc, une enquête qui n'était pas encore, en plus, à l'époque, disponible en kiosque, puisque c'est Valeurs Actuelles publiée, paraît le lendemain. Alors pourquoi ? Eh bien, il y a un membre de l'équipe de Quotidien qui, contacté par diverses rédactions, explique on a retiré la story dès le lendemain parce qu'elle n'avait pas vocation à rester en ligne trop longtemps, mais défend ce geste. On a un dossier qui appelle de façon très hypocrite, ambiguë, à cogner les gens de notre équipe. Dans sa newsletter, c'était pas dans l'article, Valeurs Actuelles, qui paraissait le même jour, appelle à punir Yann Barthès. Ce sont des mots extrêmement violents et on voulait répondre de manière violente, mais à notre manière, avec une réponse qui nous semblait provoque. Alors, problème, effectivement, Valeurs Actuelles, dès le lendemain, accuse Yann Barthès de sabotage numérique, je crois qu'on va l'entendre, et annonce sa volonté de porter plainte.
Bonjour à tous, cette semaine, pour la première fois, un média a décidé de s'en prendre à Yann Barthès et à Quotidien. Vous savez, la tyrannie des bien-pensants de Yann Barthès et de sa horde de petits bien-pensants qui viennent vous expliquer ce que vous avez le droit de dire, ce que vous n'avez pas le droit de dire, ce que vous n'avez pas le droit de penser, et bien figurez-vous que ça leur a pas du tout plu. Ils ont pu le lire un peu en avance et ils ont décidé de lancer une immense opération de sabotage numérique de notre travail, juste pour essayer de ne pas répondre aux questions qu'on pose et qui sont très nombreuses dans ce dossier, qui est inattaquable. Factuellement, on démontre toutes leurs erreurs, tous leurs mensonges, toutes leurs manipulations, et au lieu de répondre sur le fond et de peut-être même nous inviter dans leur émission pour qu'on ait un débat honnête sur cette question, ils ont décidé de publier gratuitement sur les réseaux sociaux notre travail en intégralité. C'est évidemment parfaitement illégal, parfaitement scandaleux aussi, ils n'ont pas le courage d'assumer une contradiction. Alors maintenant, on va vous demander de nous aider, soutenez-nous et faites savoir ce scandale, parce qu'on ne peut pas tolérer dans un pays comme la France qu'aujourd'hui quelqu'un se sente au-dessus des lois et puisse ne pas tolérer la contradiction à ce point.
Alors effectivement, ce qu'a fait Quotidien, en réalité, c'est illégal. Quasiment tout le monde le dit. Pourquoi ? Alors, vous le soulignez d'ailleurs tout à l'heure, Frédéric Martel. Effectivement, Valeurs Actuelles avait déjà donné à lire de manière gratuite certaines enquêtes sur son propre compte Twitter ou Instagram, etc.
Notamment mais, l'enquête sur Zemmour. Mais c'est eux qui avaient décidé de le faire.
Mais c'est eux qui avaient décidé de le faire. Or, au cœur de tout ça, eh bien, il y a le droit d'auteur. Le droit d'auteur, je vous donne ce que dit la SCAM. Le droit d'auteur correspond à un droit de propriété sur l'œuvre. Celui qui en est titulaire est en mesure d'autoriser ou d'interdire toute reproduction ou représentation de cette œuvre. Ce droit confère la maîtrise économique de l'œuvre. Donc concrètement, effectivement, c'est illégal. Alors ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'ensuite Valeurs Actuelles a appelé tous les gens qui sont contre Yann Barthès, même pas ceux qui aimeraient véritablement Valeurs Actuelles, à acheter Valeurs Actuelles, à se prendre en photo avec Valeurs Actuelles pour lutter, je cite, contre la bien-pensance. Et alors après, il y a eu dérapage de l'autre côté, puisqu'il y a un élu Rassemblement National qui, dès le lendemain, a publié sur son compte Twitter les numéros personnels de Yann Barthès et de tous les chroniqueurs de l'émission Quotidien pour appeler les internautes et les défenseurs de Valeurs Actuelles à les insulter, à les menacer, etc. Donc là aussi, on est dans la légalité. Bon, alors, j'ai très...
C'est une guéguerre devenue une guérilla.
C'est une guéguerre devenue une guérilla avec acte légal et illégal de l'autre côté, mais vraiment une prise, une polarisation, on va dire, d'une certaine idée de culture de ce qu'est la presse ou la culture de manière générale, qui est assez intéressante à regarder et en même temps assez désespérante.
Emmanuel Paquette de l'Express.
Oui, alors si on pouvait parler d'un film, ça serait un très mauvais film. Mais en l'occurrence, c'est plutôt une très mauvaise émission, puisque les deux camps, visiblement, utilisent des arguments qui sont totalement malhonnêtes et fallacieux.
Pas très défendables, oui.
Effectivement, et puis en dehors des clous, en l'occurrence, que ce soit une violation du droit d'auteur concernant concernant Yann Barthès, et de l'autre côté dévoiler des numéros de téléphone concernant un futur élu, puisque c'est quelqu'un qui se présente au municipal sous l'étiquette Rassemblement National, de donner des numéros de téléphone pour pouvoir taper et pourrir, puisque c'est les termes qui sont utilisés sur Twitter, les proches du quotidien, les gens du quotidien, c'est quand même des méthodes des deux camps qui sont pas vraiment très appréciées et appréciables. Et pour le coup, ça reste quand même un peu germano-pratin, puisque ça n'intéresse que visiblement un peu les lecteurs de Valeurs Actuelles d'un côté, et de l'autre, ceux qui regardent un petit peu le quotidien, et encore pas tout le monde. Donc voilà, je pense que c'est une petite affaire qui ne fera pas tant de remous que ça.
J'interrogeais tout à l'heure Geoffroy Lejeune, donc le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, sur ce qui s'était passé. D'abord, il me dit qu'il ne pensait pas que ça prendrait cette proportion, en tout cas, je le cite. Il me dit aussi, nous sommes au fond l'inverse. Ils sont l'inverse de nous, d'une certaine manière, Yann Barthès. Et ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est que lui, il vient plutôt de la politique, et il se rend compte, c'est le cas de la polémique autour d'Éric Zemmour, c'est le cas des polémiques récurrentes autour d'Alain Finkielkraut, de Mediapart ou d'autres, au fond que la culture c'est parfois, et il me dit ça, c'est plus structurant dans le débat politique que la politique elle-même. Et c'est là où peut-être que le débat est intéressant malgré tout pour nous ici, c'est comment des sujets culturels, des sujets médias deviennent au fond des choses qui intéressent beaucoup plus les gens que parfois d'avoir tel responsable de parti ou élu qui vient défendre tel ou tel argument. Blaise Mao, Benoît Berthelot, une réaction peut-être ? Blaise ?
Oui, moi ce qui me fascine sur cette affaire, c'est la façon dont Twitter est une chambre d'écho incroyable des arguments avancés par les deux camps.
Au moins auprès des journalistes, puisque...
Voilà, puisque Twitter est lu en grande partie par les journalistes qui en ont fait un outil de veille très précieux. Et vraiment, Twitter est ce miroir déformant de la réalité. Je crois qu'on est l'importance de cette affaire, elle est portée en particulier par ce réseau social-là. Et à chaque fois qu'il y a eu une polémique aussi violente, un ciblage et une outrance, c'est Twitter qui devient le média booster, quoi, la plateforme booster de cette outrance. Donc ça, c'est vraiment inquiétant et ça se répète vraiment de semaine en semaine. On peut regarder depuis un mois, il y a eu comme ça une polémique. C'était Alain Finkielkraut la semaine dernière, d'autres avant. À chaque semaine, sa grande polémique portée par Twitter.
Benoît Berthelot, sur cette question.
Ce qu'on peut observer aussi, c'est que ces deux médias sont dans des dynamiques opposées en ce qui concerne leur audience, puisque Quotidien a battu la semaine dernière ses records avec 1,9 million de téléspectateurs, je crois, alors que Valeurs Actuelles a
connu très prescriptive, c'est beaucoup plus que même aujourd'hui, touche pas à mon poste, ou surtout mon poste, ou même l'émission de Laurent Ruquier le samedi soir.
Donc un succès forcément peut-être jalousé ou qui agace. Et de son côté, Valeurs Actuelles est plutôt, après des très bonnes années, en dynamique descendante, avec je crois moins 14% dans ses ventes sur l'année passée. Donc sur ce coup-là, peut-être qu'ils ont réussi un bon coup, puisqu'ils ont dit qu'ils étaient en rupture de stock dans les kiosques.
Alors on peut dire aussi qu'ils sont peut-être jaloux, hein, puisque finalement ils ne sont pas invités à Quotidien, contrairement à France Culture d'ailleurs cette semaine.
C'est vraiment cocorico. Non, mais ce qui est intéressant quand même effectivement, c'est cette espèce de réaction très puérile de Yann Barthès. Est-ce qu'elle est puérile ou est-ce qu'elle est pensée? Parce qu'en réalité, cette enquête, on avait reçu ici le monsieur Lejeune qui dirige Valeurs Actuelles. On avait débattu justement de la qualité de ces enquêtes. Il y avait quand même, je pense, matière à potentiellement porter plainte pour diffamation sur certains aspects de l'article. En tout cas, si on cherchait, on pouvait trouver. Et ils n'ont pas choisi de faire ça. Ils n'ont pas choisi ça parce que probablement, justement, ce serait rentré dans des choses procédurières, ce serait rentré dans des choses qui prennent beaucoup de temps et qui ne correspondent pas tellement à leur identité. Et c'est effectivement quand on fait ça et quand on fait ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire c'est un mouvement assez provoque, effectivement illégal, mais qui rentre tout à fait aussi dans la culture que défend Yann Barthès.
Donc si je résume, 0-0 la balle au centre ou 1-1 la balle au centre, mais personne n'a vraiment marqué dans cette bataille qui était une guéguerre.
Ne me regardez pas, je ne serai pas là pour
une guéguerre qui est devenue une guérilla. Autre bataille numéro 2 cette semaine, qui a rebondi en tout cas tout récemment, le cinéma français, d'une certaine manière, déjà un moment après MeToo, Zoé Sfez, que vous souhaitiez analyser comme une singularité justement française et un peu tardive.
Mais oui, effectivement, parce que bon, on peut revenir sur les chiffres de la marche d'hier, marche organisée par le collectif Nous Toutes, avec donc un comité de pilotage de 20 personnes qui aurait rassemblé entre 100 000 et 150 000 personnes dans l'ensemble du pays. Donc la plus grande marche de l'histoire de France contre les violences sexistes. Alors j'y étais, le mot Adèle, Anel était présent sur beaucoup de slogans, avec ce fameux slogan plus d'Adèle, moins d'Emmanuel. Clairement, toutes les révélations de Mediapart étaient disons, omniprésent dans cette marche. On a beaucoup parlé, en fait, ici, à France Culture, de cette enquête de Mediapart, dans laquelle Adèle Haenel révélait avoir été victime d'attouchement et puis d'une relation d'emprise de la part du cinéaste Christophe Rougia, qui lui avait donné son premier rôle au cinéma dans le film Les Diables, à une époque où elle était Miller. Alors, cette enquête-là, déjà, a donné lieu à très directement plusieurs décisions qu'on n'avait pas vues, en tout cas plusieurs grands moments de réflexion de la part d'institutions culturelles en France, qui n'avaient pas eu lieu au moment de MeToo, notamment la puissante ARP, la Société Civile des Auteurs, Réalisateurs, Producteurs, qui regroupe 200 cinéastes, dont Christophe Rougia, qui en était membre et qui a longtemps été coprésident de cette association, qui s'est réunie la semaine dernière et qui a voté la mise en place de nouvelles règles. Alors, c'est des procédures de suspension pour tout membre qui serait mis en examen par la justice et d'exclusion pour tout membre qui serait condamné, notamment pour des infractions de nature sexuelle. Alors, sans nommer, évidemment, le président de l'ARP, Pierre Jolivet, a explicitement précisé que cette suspension concernerait Roman Polanski, dont l'information judiciaire est toujours en cours aux États-Unis. Donc, la RP qui adopte ce qu'on appelle une jurisprudence baladure, qui veut que tout membre du gouvernement impliqué dans une affaire judiciaire présente sa démission. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 2 ans? Et précisément, cette prise de parole, là, pour que l'industrie du cinéma français réagisse. Alors, on sait qu'après MeToo, il y a eu Florence Pernel qui s'est expliquée. Il y a eu aussi plusieurs enquêtes sur Luc Besson qui n'ont pas donné lieu, en tout cas, à des échos dans l'opinion publique, de la même manière que cette enquête sur Adèle Haenel. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le jour même de la publication de cette enquête sur l'affaire Haenel Rougia, Marine Turki, donc la journaliste de Mediapart, publie une autre enquête simultanément, qui s'appelait « Dans le cinéma français, des violences sexuelles systémiques », qui nous a particulièrement ici intéressés à Soft Power, parce qu'en fait, elle tentait de mettre le doigt sur ce qui, spécifiquement dans la structuration de l'industrie du cinéma français, permettait en tout cas de tels crimes ou délits, ou en tout cas empêchait de les dénoncer ou de les éviter. Alors, à sa lecture et en connaissant le fonctionnement même de cette industrie, il semblerait que c'est en fait précisément notre exception culturelle française en matière de cinéma, ce fameux système vertueux de financement par le public, de commission CNC, mais aussi la toute-puissance de l'auteur contre les producteurs, notamment, que nous envient tous les réalisateurs américains, par exemple, qui pêchent. Parce que comme aux États-Unis, les relations sont nécessairement asymétriques entre d'un côté les décideurs tout-puissants, réalisateurs, producteurs, et de l'autre côté leurs employés, donc acteurs, mais aussi petites mains, éclairagistes, accessoiristes, etc. Tout ça dans des contraintes économiques et dans un milieu très concurrentiel. Mais d'une part, le cinéma français est un serail beaucoup plus petit que l'industrie américaine, qui rend le fait de parler beaucoup plus vulnérable, explique la productrice Julie Billy, qui est coprésidente du collectif 50-50 dans cette fameuse enquête de Marine Turki. La peur d'être grillée est donc beaucoup plus forte. Mais autre particularité, la structuration de l'industrie elle-même. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'aux États-Unis, les actrices américaines qui ont pris la parole après MeToo, c'était Natalie Portman, c'était Reese Witherspoon, qui sont aussi, c'est très important, de grandes productrices. Elles ont chacune leur propre boîte et elles sont beaucoup plus autonomes. En creux, ce qu'on comprend, c'est que le système d'exception culturelle à la française, basé sur une cooptation par les pairs, grâce au système de financement du CNC, rend l'autonomisation des actrices, des productrices, des réalisatrices beaucoup plus complexe. Un réalisateur tendancieux, voire carrément harceleur, n'est pas uniquement présent sur son tournage. On va le recroiser dans une commission au CNC, on va le recroiser sur un autre film, président d'un jury, ou encore à la tête d'une organisation comme l'ARP. C'était le cas, justement, on l'a dit, de Christophe Rougia. Par rapport à Hollywood, chaque corps de métier à Hollywood de l'industrie, ce terme de l'industrie, on l'entend à chaque fois, hein, vous le savez, dans les remises de prix, c'est ce que disent les acteurs. Eh bien, tous les corps de métier sont très structurés. Les États-Unis ont un syndicat notamment d'acteurs très fort, explique Olivier Citruc, qui dirige l'association des acteurs et actrices. Nous ne sommes pas unis, on peut dire qu'on a des réactions. L'AFA manifeste avec la Fondation des femmes. Simplement, on doit toujours agir en dehors de l'emballement médiatique et avec des moyens réduits. Alors, est-ce que c'est pour cela que des actrices dont toute la profession sait qu'elles ont été confrontées à des violences sexuelles, comme Catherine Deneuve et beaucoup plus récemment comme Marion Cotillard, n'ont pas pris la parole il y a 2 ans au moment de MeToo? Peut-être aussi et surtout parce que le cinéma place au cœur de son édifice, de sa politique, l'auteur, le réalisateur, l'auteur et son désir pour le meilleur et pour le pire. Un auteur doit pouvoir désirer ses actrices ou ses collaboratrices. On n'est pas aux États-Unis, est une phrase qui revient souvent sur les plateaux de tournage. Et cet auteur, eh bien, il est à 75% en général un homme. Hasard de calendrier, la semaine dernière se tenaient les assises de la parité au CNC, organisées donc par le CNC. Le nouveau président Dominique Boutonnat devait y présenter les résultats de la bonne parité, du bonus parité qui était introduit l'année dernière. C'est un bonus de 15% accordé aux équipes de films paritaires au niveau des chefs de poste. Il a bénéficié à 29 films en un an. Et la question des violences sexuelles s'y est évidemment invitée. La réalisatrice Rebecca Zlotowski, membre du collectif 50-50, dans un discours empreint d'une grande gratitude, invité, a appelé à des états généraux du CNC sur ces sujets des abus de pouvoir sexuel sur les plateaux et dans l'industrie du cinéma, avec quelques propositions fortes. La présence d'un référent désigné sur le plateau en début de tournage, à qui s'adresser, à qui faire remonter les dérives. Une clause contractuelle obligatoire qui rappellerait par la production des tournages en cours les éléments de la loi contre le harcèlement sexuel, mais aussi et surtout, dit-elle, une négociation avec les assureurs du cinéma. Pour que le nerf de la guerre, la question de l'argent sur un tournage, ne soit pas à mettre en balance avec la question de la vérité, une clause qui permettrait de tirer des sonnettes d'alarme sans que la question de mettre en péril le tournage, parce que concrètement c'est ça qui se passe, se pose, plongeant les victimes dans des conflits de loyauté au carré. On espère en tout cas qu'elle sera entendue et que le cinéma français est prêt à prendre enfin la question à bras-le-corps.
Vous reviendrez, Zoé Sfez, sur ce sujet peut-être plus longuement encore dans un article prochainement sur le site de France Culture. Peut-être une réaction, Blaise Mao ?
Oui, je pense que cette mobilisation, elle est très rassurante. Simplement, pas oublier que le temps de la justice, enfin la justice se rend ni sur Twitter ni sur Mediapart, mais dans les tribunaux. Et je pense que ça a été un peu reproché à Dalenel au moment de ses révélations et de l'article de Mediapart, pourquoi elle n'avait pas porté plainte. Chaque cas est différent, chaque histoire est différente. Et c'est vrai que parfois la justice ne répond pas comme il faudrait. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier en chemin la présomption d'innocence et le fait que la justice se rend aussi dans les tribunaux.
Troisième et dernière bataille ce soir, la bataille entre, c'est tout à fait autre chose, entre Lego et les Playmobil.
Mais est-ce que évidemment, c'est pas très important.
On est un peu avant Noël, pas tout à fait, mais tout à l'heure on nous a souhaité joyeux Noël, je crois, dans l'émission qui précède. Alors voilà, c'est le sujet d'une enquête fouillée de Benoît Berthelot avec nous ce soir dans Capital. Leurs jouets sont toujours cultes et résistent aux rats de marée, écrivez-vous des écrans. Mais entre Playmobil et Lego, on ne se fait pas de cadeaux, Benoît, surtout avant Noël. Vous nous racontez les dessous de cette bataille sans merci, je dirais les bleus, en l'occurrence Playmobil, face au rouge.
Oui, les boîtes bleues contre le logo rouge. Effectivement, c'est deux acteurs qui sont là depuis très longtemps chacun. 1932 pour Lego, qui est un Danois, et 1974 pour Playmobil, qui est une entreprise allemande. Ce qui est intéressant, c'est que c'est deux grands acteurs de l'industrie du jouet, un marché qui pèse des milliards, et ils sont aujourd'hui mondialisés, mais européens. Ils sont restés des groupes familiaux, puisque les deux sont possédés par des fondations, toujours possédées par la famille des fondateurs, la famille Christiansen pour Lego, et la famille Brandstetter pour les Allemands. À eux deux, ils se partagent 17% du marché du jouet juste en France, 10% pour Lego, qui est un peu devant, et 7% pour Playmobil. Donc effectivement, les enjeux pour eux à Noël sont énormes.
Si on les compare en termes de chiffre d'affaires, bon évidemment, Lego, c'est quoi ? 7 fois plus gros, c'est ça ?
Beaucoup plus gros, c'est 5 milliards presque d'euros de chiffre d'affaires. Ils partent à la conquête de la Chine, ils sont déjà très très forts aux États-Unis, qui est le premier marché au monde, alors que Playmobil est encore plus européen et fait 686 millions de chiffre d'affaires, donc c'est quand même plus petit.
Alors, c'est une longue enquête à lire dans Capital, datée de décembre. Une enquête que vous avez d'ailleurs co-écrite avec Gabriel Orion. Ce qui est frappant quand on regarde ces jouets, c'est qu'on est dans une industrie culturelle avec toutes ses caractéristiques, c'est-à-dire tradition d'un côté, mais aussi nécessité de se renouveler sans cesse avec des prototypes, donc de l'innovation, de la recherche et du développement. Et puis, le plus fascinant, c'est les licences.
Voilà, parce qu'ils doivent coller toujours au goût des enfants. Il y a quelques thèmes indémodables, comme les pompiers, les policiers, les animaux, etc. Mais il faut quand même se coller à l'actualité.
Dans son temps.
Et pour ça, ils ont trouvé comme solution de s'allier à des grands films, à des dessins animés et donc à des studios. C'est Lego qui a commencé en 99 avec Star Wars. Et cette alliance, a priori improbable au début, entre le fabricant de jouets et la licence de George Lucas. Mais ça a très très bien fonctionné tout de suite. Ils ont multiplié ces licences avec ensuite Harry Potter, avec tout récemment une boîte Friends qui appartient à la Warner. Donc là, c'est pour les adultes qui aiment les Lego et les jouets.
Il y en a plein cultes autour de cette table.
Voilà. Et leur plus gros partenaire
Emmanuel
aujourd'hui.
Paquette regarde ça avec passion. Il y a même la Reine des Neiges 2.
Hein. Voilà. Ce sera l'événement de Noël. Elle est déjà sortie au cinéma ce mercredi. Mmh. Et ensuite, on a Star Wars épisode 9 qui arrive juste avant Noël. Les deux sont des jouets, sont des films Disney et donc sous licence avec Lego. Mais Playmobil s'y met, qui était plus conservateur sur le sujet. Alors que Lego a 30% de ses jouets sous licence, Playmobil commence à peine et eux, ils ont plutôt des alliances avec DreamWorks, des films comme Spirit ou Dragon, qui sont aussi des dessins animés d'ailleurs. Et puis, Retour vers le futur, Ghostbusters, ou bien Porsche. On trouve des Porsche
Playmobil. Donc, ce qui est incroyable, c'est qu'on retrouve tout. On va avoir des séries de Netflix, par exemple, je crois que c'était Stranger Things, des jeux vidéo de Microsoft, Toy Story 4 en film, et même Heidi, hein, qu'on peut voir sur TF1 en dessin animé, qu'on retrouve bientôt en version Playmobil. Je crois que ce sera pour janvier.
Voilà. Et l'enjeu, en fait, pour eux, c'est de surfer, évidemment, sur des dessins animés qui sont récurrents. Heidi, c'est une très vieille série qu'on connaît tous, mais elle est depuis quelques années en animation sur TF1. Et effectivement, il y a un partenariat avec Studio 100 qui produit ce dessin animé et qui va faire un dessin animé original avec des Playmobil à l'intérieur pour le web. Donc les deux, Lego comme Playmobil, sont aujourd'hui des créateurs de contenu pour YouTube. Pour Netflix, on a eu un film Playmobil qui est sorti cet été, produit par un studio français d'ailleurs, qui n'a pas du tout marché, enfin qui a fait 500 000
téléspectateurs. Je ne sais pas s'il y a un lien avec ça, mais bon.
Moins fort que les films Lego, est-ce qu'il y a des films Lego?
Oui, les films Lego ont, eux, cartonné un peu moins maintenant.
Cartonné, et... c'est pas tout à fait le cas de le dire, puisque c'est plastiqué qu'il faudrait dire.
Plastiqué le box-office, voilà. Et le deuxième film Playmobil, s'il a lieu, il pourrait être diffusé sur Netflix ou sur Amazon, donc... Ce serait peut-être plus adapté pour toucher les publics avec un moins gros budget.
Alors, on parlait de plastique, vous revenez assez longuement sur le problème du recyclage, un problème écologique, l'après-plastique, ils y pensent déjà. On pourrait aussi s'intéresser à comment ils se positionnent par rapport à Hasbro, Mattel ou tout simplement est-ce qu'ils bénéficient de la faillite de Toys R Us aux États-Unis, au-delà de leur...
Pour le contraire.
Voilà, où est-ce qu'ils, comment ils réagissent par rapport à ça. Et puis, il y a aussi toute la question des prix, puisque finalement, être dans une franchise, c'est permettre que ça coûte un peu plus cher, de l'ordre de 60€, par exemple, pour le petit vaisseau Star Wars. Ça, c'est assez...
Oui, parce qu'il y a 12% du chiffre d'affaires de ces boîtes-là qui revont directement à l'ayant droit, dans ce cas Disney. D'ailleurs, Disney fait monter les enchères les années où un film sort. Donc là, comme La Reine des Neiges sort et Star Wars sort, le pourcentage que va toucher Disney va encore augmenter. Et ça marche un peu comme l'édition, finalement. Il y a une sorte d'avaloir qui est donné à la marque sur le chiffre d'affaires prévisionnel. Donc tout ça, évidemment, encadré par des contrats pluriannuels et très complexes. Ouais.
Benoît Berthelot, c'est une enquête à lire dans Capital, coécrite avec Gabriel Aurillon, Capital, de décembre 2019. Vous pouvez retrouver notre séquence actualité des industries culturelles et du numérique dans son podcast dédié sur le site de France Culture, page Soft Power. On se retrouve dans un instant pour parler des signaux faibles, autrement dit, comment prévoir le futur et repenser la prospective à l'heure numérique. Nous retrouverons Blaise Mao d'Uzbek Erika pour cette séquence. Ensuite, le directeur de l'ANSSI, Guillaume Poupard, sera mon invité pour parler sécurité informatique. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, un mot Zoé Sfez sur le phénomène Rosalia.
Et oui, on l'aime beaucoup, Rosalia, ici à Soft Power. C'est celle qu'on commence à surnommer tout simplement la Beyoncé espagnole. Elle a raflé la mise aux Latin Grammy Awards la semaine dernière. Et c'est le fruit d'une stratégie assez implacable et très innovante qui fait d'elle l'une des premières espagnoles à s'imposer mondialement, y compris face aux latins. On parle d'une jeune fille qui vit dans la banlieue industrielle de Barcelone, qui découvre le flamenco et le maître Camarón à 13 ans. Elle le cite régulièrement dans ses chansons. Elle quitte tout pour recevoir l'enseignement de Chiqui de la Linea, qui est prof de flamenco puriste. Elle travaille sur la scène dite du néo-flamenco mais qui n'a jamais vraiment dépassé les limites de l'Espagne. Elle reprend des grands classiques du style flamenco dans son premier album Los Angeles. Elle a à peine 19 ans. Succès d'estime en Espagne, mais tout s'accélère quand elle commence à travailler en 2017 sur un nouvel album thématique, El Malquerer, produit par El Guinch, qui est une star barcelonaise lui aussi de l'électro, mais qui est en lien avec des producteurs américains de renom. Elle s'impose avec le titre Malamente qu'on va écouter dans une seconde, un single qui mélange du flamenco, du pop, de la pop et de l'électro, et qui séduit qui ? Eh bien les sœurs Kardashian, et vous savez que ça c'est un sésame pour tout le reste. À partir de là, pendant un an, elle sort quasiment chaque semaine un titre de cet album flamenco, et en parallèle, elle multiplie ce qu'on appelle les featuring avec les stars du reggaeton, que même parfois nous ne connaissons pas, Tu por mi yo por ti avec Ozuna cet hiver, ou encore Barefoot in the Park avec la star britannique James Blake. Elle s'offre un passage, au passage d'ailleurs, dans Douleur et Gloire d'Almodovar. Après un MTV Award en août, la jeune espagnole de 25 ans remporte donc l'album de l'année, la meilleure production de l'année, le meilleur album vocal contemporain et même le meilleur design d'album au Latin Grammy Award. C'est un plébiscite qui en dit long sur l'onde de choc que représente cette jeune catalane dans la musique latine. Alors elle est en concert à Paris, à la Salle Playel le 3 décembre. Clairement la jauge est complètement dépassée. C'est sold out depuis plusieurs mois. On espère la revoir très vite en France, probablement dans une salle à la hauteur
peut-être
de ses nouveaux
moyens.
Peut-être
au Stade de France.
Donc probablement merci en fait.
Ese gritalito roto, yo se como crujía antes de caerse al suelo. Ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí. Ponte que la acera.
Mira.
Cuanto más quiero cruzarlo,
va.
Más se mueve y tambalea.